France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
Ce sera encore mieux, c'est de rien dire.
It is my honor to declare the 78th Festival of DuPont to be officially open.
Quentin Tarantino au meilleur de sa forme, tout comme cette édition et cette première semaine passionnante. Nous sommes en direct du Palais des Festivals pour ce 78e Cannes. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous sur la croisette.
Oui, une compétition comme un passage de relais avec une nouvelle génération de cinéastes. Comme l'a si bien dit Juliette Binoche, présidente du jury, Cannes, c'est l'excitation, la provocation et l'étonnement. À l'arrivée, c'est la prise de risque et la vérité qui feront la différence.
France Inter.
Chut, ne faites pas trop bruit.
On aura tout vu.
La Palme d'Or.
Christine Masson et Laurent Delmas.
Cannes, Laurent a démarré en musique avec Partir un jour, un premier film signé Amélie Bonin. Rentrée dans son village après l'infarctus de son père, une restauratrice gagnante de Top Chef revient vers sa jeunesse et retrouve son copain d'adolescence, devenu garagiste Sébastien Bouillon. Un joli petit film, très frais, et la révélation d'une actrice, Juliette Armanet.
Oui, Paris audacieux et très réussi pour Thierry Frémaux d'ouvrir le festival international avec un film très français, c'est vrai, très en chanson française et internationale, avec des acteurs qui les reprennent dans leur voix formidablement. Bon, Juliette Armanet évidemment, mais ça elle sait chanter. Dominique Blanc et François Rollin un peu moins, mais c'est formidable quand même, c'est très touchant, très émouvant. Le milieu de la restauration entre Top Chef et les routiers, très très bien traité. Bref, c'est le pari réussi d'un cinéma potentiellement populaire, mais qui ne manie ni les grosses ficelles, ni le pathos, et ça fait beaucoup de bien. Il est en salle depuis mercredi.
Oui, le premier coup de cœur est français, il ouvrait la quinzaine des cinéastes. Enzo de Laurent Cantet, mort en avril 2024, réalisé par Robin Campillo, très ému sur scène de présenter le dernier projet de son ami. On retrouve notre premier invité, Robin Campillo, juste après ce petit morceau d'Enzo.
Enzo ?
T'as 16 ans.
T'as le droit d'avoir tes ambitions un peu plus grandes, voilà.
Mais tu vois, j'ai des ambitions toutes petites, moi.
Ok, donc tu seras maçon toute ta vie.
Et alors ? C'est déshonorant ?
Alors, il paraît que t'as une maison de milliardaire, hein. Une grande piscine et tout.
J'aimerais bien avoir ta maison.
C'est pas chez moi. C'est chez mes parents.
T'as du talent, t'as quelque chose.
Je suis sûr que tu pourrais tenter les Beaux-Arts.
Hey, je sais pas pourquoi tu insistes. On peut plus l'obliger à faire ce que nous on veut, il a plus l'âge.
Et toi tu comptes retourner en Ukraine?
Pourquoi je vais retourner en Ukraine?
Pour te battre, pour ta famille.
J'ai pas envie de cette vie-là. Ces trucs, tous ces gens. Tout le monde fait la fête comme si tout allait bien.
T'es un petit bourge qui se raconte des histoires, c'est tout.
Bonjour Robin Campillo.
Bonjour.
Je ne sais pas ce que ça veut dire faire un film de toi, aviez-vous confié Robin Campillo au chevet de Laurent Cantet juste avant sa mort en avril 2024. Maintenant, nous le savons, c'est un très beau film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo, Enzo, qui a ouvert la bien nommée quinzaine des cinéastes. Avant d'entrer dans ce film, un mot, et même plus qu'un mot, sur ce geste artistique et amical. Cantet rencontré à l'IDEC ex-fémis dans les années 80, il y a eu un coup de foudre amical.
Oui, il y a vraiment eu un... C'est comme une amitié de cinéma ou en cinéma, je sais pas comment on peut dire ça. Et c'est vrai que on a découvert la caméra, le nagra, le son, etc. ensemble. Et on a été techniciens sur les films les uns des autres. Et donc voilà, c'est un travail en commun qu'on a débuté en 83, quoi.
Collaboration, ce n'était pas le sien ni le vôtre de film. Le film développait une personnalité propre en dehors,
ouais,
de vous deux.
Voilà, c'est vrai qu'on a, on avait le sentiment, alors peut-être pour se rassurer aussi, hein, que les films, ce sont des personnages en eux-mêmes, quoi. Ce sont des personnages autonomes et là, on croit beaucoup en l'autonomie des acteurs, ouais, en l'autonomie des films. On a l'impression que c'est des choses qui doivent nous échapper un petit peu, qui doivent c'est pas l'objet d'un contrôle, en fait. On contrôle pas les choses, on travaille, et c'est pour ça qu'effectivement, même sur la question de quand je disais je ne sais pas ce que c'est un film de toi, je sais pas faire un film à ta manière, je sais pas faire un film à ma manière, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est les réalisatrices et les réalisateurs qui se racontent ça, mais que c'est le film qui exige des choses, qui exige de qui a des tropismes qui lui sont propres, quoi.
Il y avait L'emploi du temps, Vers le sud, Entre les murs, Palme d'or d'ailleurs, oui. Où c'était montage et écriture. C'est important de faire les deux.
Oui, enfin, en tout cas, c'était un mode de fonctionnement qu'on aimait bien. Et quand, sur le tournage, moi, je regardais beaucoup les rushs. Alors, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus parce que j'étais obsessionnel sur des détails qui n'avaient aucune importance. Donc, il finissait par m'appeler de moins en moins au fur et à mesure du tournage. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc qui nous plaisait à développer comme ça les choses de cette manière-là. Voilà.
Ouais. Il n'y avait pas de jalousie entre vous du tout.
Je crois pas. C'est dur d'être jaloux des films des autres, même des gens qu'on connaît pas, etc. Moi, je suis envieux, c'est-à-dire que je me dis, il y a des gens qui font vraiment des films extraordinaires que j'aurais aimé faire, en tout cas pas aimé faire, mais j'aurais aimé faire des films de cette qualité-là, ouais. Ou des trucs comme ça. Mais c'est pas de la jalousie quand même quand on aime comme ça les films, quoi. C'est vraiment plutôt de l'admiration, tout simplement.
Vous aviez des croyances en commun. Politiquement, vous étiez très proches tous les deux. Vous voyez ? Ouais.
Oui, on était très proches, et je pense aussi que oui, on avait des croyances aussi dans le cinéma, justement, dans ce que je dis de la question de l'autonomie des acteurs, c'est-à-dire c'est pas tellement la question des professionnels non professionnels, mais de trouver des gens qui pouvaient incarner les fictions qu'elles ont pensées, mais qui avaient une dose de liberté qui faisait que le film n'était pas exactement ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire qui nous démontrait ce qu'était le film qui perturber ce qui aurait pu être un programme au départ.
Laurent Conté est mort un lundi. Le mardi, vous vous êtes mis au travail sur ce film. Enzo, 16 ans, apprenti maçon à La Ciotat. Son père le voit faire des études supérieures alors que lui cherche à échapper au cadre bourgeois et étouffant de la villa familiale. Sur son chantier, il va rencontrer Vlad, un collègue ukrainien qui va lui ouvrir d'autres horizons. C'est drôle parce que c'est le pitch inverse de celui de Ressources humaines. Un jeune cadre dans une famille d'ouvriers, c'était une volonté ou c'est un hasard, ça ?
Alors ça, c'est à lui qu'il faudrait poser la question, malheureusement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui le travaillait depuis longtemps. Il m'avait toujours parlé de cette histoire d'un gamin qui était pas dans sa classe, qui était hors classe de sa famille, comme ça.
Hors les murs,
un peu, oui, c'est ça. Mais c'est marrant parce que plus j'ai réfléchi au film, plus je pense que c'est à la fois ça et à la fois pas complètement ça. Ça raconte plutôt une espèce de gamin qui essaie d'échapper à sa famille, qui est dans une espèce de fluidité où il a envie d'un ailleurs, d'une métamorphose, etc., qu'il se sent enfermé dans ce monde-là. C'est pas qu'une question, parce qu'en fait, le chantier, il travaille pas si bien que ça.
Non.
Il est pas si... C'est pour lui comme une utopie dans laquelle il y a une espèce de fraternité, de choses comme ça aussi qui lui plaît, je pense.
En même temps, c'est une critique politique extrêmement subtile, comme l'était dans l'autre sens inverse, ce garçon qui est cadre et qui juge sa famille d'ouvriers. Mais ça, c'est très original d'avoir fait l'inverse.
Oui.
Et c'est aussi politique.
C'est aussi politique parce qu'en fait, c'était la question de l'adolescence. Nous, on voulait pas d'un adolescent qui soit genre, qui fasse la tête à ses parents, qui soit dans la guerre avec ses parents. C'était pas exactement ça. Nous, on voulait un adolescent qui soit comme une énigme et qui mette en crise, en fait, sa famille. C'est-à-dire que, et c'est vrai que la crise qu'il met dans sa famille, c'est parce que on est quand même à une époque où, de Parcoursup, on a même une ministre de l'Éducation qui parlait que les gamins devaient choisir leur voie dès la maternelle, ce qui est pas loin d'un membre du gouvernement Trump, comme réflexion. Et c'est vrai qu'il y a ce Parcoursup qui est comme une espèce de jeu. Je pense toujours à cette phrase, je crois que c'était de Borges, qui dit qu'il n'y a pas de pire labyrinthe qu'un labyrinthe en ligne droite. C'est un peu ce sentiment que me donne... Et en dehors de ce labyrinthe en ligne droite, de ce corridor, il y a le monde qui s'écroule. C'est-à-dire, il y a effectivement les ruines de Gaza, les ruines de l'Ukraine, et en même temps aussi, j'ai l'impression, une ruine morale de l'Occident, avec une extrême droite qui gagne partout et c'est quand même très dangereux. Donc non seulement il y a des turbulences, mais en même temps il y a vraiment des dangers même de guerre, de choses comme ça, qui planent quand même sur ces jeunes, etc.
Tous les deux, vous réussissez vachement bien à faire des belles fictions et très politiques dans le fond, en fait. C'était ça votre enjeu, c'est ça votre enjeu à vous, et c'était ça son enjeu à lui aussi.
Oui, mais...
Raconter une histoire et faire réfléchir.
Absolument, mais là, vous avez raison, c'est sur la question de faire réfléchir. C'est pas, on n'a jamais essayé d'avoir raison sur quelque chose. Faire un film politique, c'est au fond, c'est mettre de beaucoup de lumière sur du trouble. C'est de rendre limpide des choses un peu paradoxales. C'est-à-dire que, en fait, et dans ce film, moi, j'ai essayé d'aller au plus loin de la lumière, c'est-à-dire de l'impression que les gens sont saisis, que tout est écrasé de lumière, et qu'en même temps, c'est très difficile de percer les secrets de cet adolescent, de comprendre comment il fonctionne exactement. Et c'est ça qui me plaisait.
Juste un mot sur les parents, parce que c'est des bourgeois, mais ils sont pas chargés en même temps.
Non.
La critique est pas énorme contre. Ils essaient de comprendre en même temps. Ils sont sur le fameux chemin tout droit.
Oui.
Et ils essaient de comprendre.
Mais bien sûr, c'est pas de toute façon. Hein, Laurent et moi, on a toujours eu cette idée que on était absolument du côté de tous les personnages des films qu'on faisait et que justement ça, la cruauté faisait que les actes jugeaient plus ou moins telle ou telle personne. Mais on croit toujours un peu à la sincérité de nos personnages. Il se trouve que là dans le film, le père, son inquiétude, elle est compréhensible, mais sa bienveillance est quand même très nocive pour l'enfant. C'est quand même une domination sur le corps de son enfant et je crois qu'il ne s'en rend même pas compte. C'est vraiment un truc, c'est un amour très très coercitif, et même si effectivement il est plein de compréhension, il est plein de il est prêt à entendre beaucoup de choses, mais ça reste quand même c'est un auxiliaire de contrôle de la société.
C'est un récit d'apprentissage qui est voulu par le garçon, parce qu'en fait il se confronte à la brutalité du monde.
Oui.
C'est pas qu'un parcours sensuel ou sexuel, parce que je pense qu'il sait déjà qu'il est homosexuel et qu'il rencontre et ce garçon ukrainien va l'ouvrir vers l'actualité mondiale, quoi.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je parle du fait qu'il y a une espèce de fluidité chez lui, qui est une fluidité pas seulement sexuelle, etc. C'est une fluidité politique, etc. C'est-à-dire qu'il est à la recherche d'un idéal, et en fait il essaye de sortir à la fois de sa famille, mais en même temps c'est lui qui impose aux autres. C'est ça qui est intéressant. Le père a raison de lui dire à un moment: tu nous méprises, parce qu'en fait il met tellement en crise les gens dans ce qu'il croit être la normalité, de ce qu'il croit être la vie normale. Même Vlad sur le chantier, au fond il le confronte par rapport au conflit dans son propre pays. C'est-à-dire qu'en fait il rappelle les gens à un minimum de conscience, et c'est ça qui est étrange chez lui. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans un idéal, et en même temps il entraîne avec lui les gens dans sa vision des choses.
Vous avez l'air paisible par rapport à ça. Vous étiez paisible sur le tournage, ou est-ce que vous aviez toujours en tête qu'est-ce que Laurent aurait dit, qu'est-ce que Laurent aurait pensé?
Alors, moi, à l'aise sur un tournage, c'est quand même très compliqué.
Ah oui.
C'est-à-dire que je suis très angoissé. Et en même temps, par contre, je n'étais pas angoissé par la question de qu'est-ce que Laurent aurait fait, etc.
Heureusement, ça aurait été horrible.
D'accord. Oui, d'abord, on s'était mis d'accord avec Laurent. J'avais dit, on fait comme quand on est réalisateur ou réalisatrice, on fait comme on peut. Et on fait ce qu'on, voilà, on travaille, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai même retravaillé avec Gilles Marchand aussi, qui était sur le tournage, des dialogues, des scènes, etc. Mais c'est surtout, en fait, le film, c'est des métamorphoses. Et sur le tournage, c'est aussi des métamorphoses. C'est ça qui angoisse un peu, d'être obligé de remettre de retravailler les scènes, de retravailler ce que raconte le film, comment il fonctionne, etc. Mais c'est tout ce qui en fait l'intérêt. Et quand on a des acteurs qu'on aime, etc., des actrices qu'on aime, ça produit des choses, les lieux, la lumière. Donc moi, ça m'angoisse. Mais par contre, je pense que la fidélité que j'avais à Laurent, et encore que j'aime pas trop le mot, mais c'est vraiment le fait de mener le film au bout, d'essayer d'en trouver une, sinon une vérité, en tout cas de lui permettre de s'incarner, quoi.
Je vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais ce film Enzo méritait la compétition officielle. Il est à la quinzaine et il sort le 18 juin prochain. Merci beaucoup, Robin Campillo.
Merci à vous.
Alors, la première femme en compétition, elle, c'est l'Allemande Masha Schilinski avec Sound of Falling, son deuxième film. Dans une ferme au nord de l'Allemagne, le destin sur une centaine d'années de quatre jeunes filles, une fresque, Laurent, sur la mémoire, l'identité et la violence faite aux femmes femme comme une transmission des traumatismes. Une œuvre visuelle, moi, que j'ai trouvée ambitieuse et saisissante, un grand film de fantômes.
Oui. Je suis plus réservé que vous, comme l'indique mon oui, comme ça. Bon, non, c'est un premier film, évidemment, très, très, très intéressant, très ambitieux, vous le disiez, avec le désir et la mort peut-être comme fil conducteur. Donc ce sont des grandes choses, évidemment. On ne peut que songer à Aimat, Bergman, Sofia Coppola, Michael Haneke. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de références.
Jane Campion, même.
Jane Campion aussi, ouais. Oui. Il y a une référence visuelle, moi, qui m'a presque assommé, c'est-à-dire que je trouve trop présente. C'est celle des photos du photographe allemand August Sander.
Mais oui, c'est sa base.
Le grand photographe de Weimar. Mais je trouve que esthétiquement, c'est presque trop encombrant. Et j'ai un peu de mal à voir où est la cinéaste dans cet ensemble très très muséal comme ça, presque trop pesant. Voilà. J'attendrai son deuxième film pour me faire une idée de ce qu'elle est réellement.
Un grand cinéaste ukrainien en compétition, c'est Sergueï Losnitsa, avec deux procureurs, URSS 1937, à l'heure des grandes purges staliniennes, le parcours d'un jeune magistrat intègre et sa quête de justice pour tenter de dénoncer la corruption dans la police secrète, Laurent.
Oui, alors c'est à mes yeux en tout cas un des grands coups de cœur de ce début de festival. On songe inévitablement à l'aveu de Costa Gavras, mais sans signoret et montant, c'est-à-dire sans un védétariat qui était un peu gênant pour le film. Et là, on est dans un format carré, le format d'une cellule de prison, avec une esthétique de gris, noir et blanc, très très gris, très très noir et très peu blanc, qui sont les murs évidemment de la prison. On est chez Kafka comme chez Dostoïevski. C'est absolument glaçant du début jusqu'à la fin avec ce personnage principal qui est d'une naïveté confondante, mais c'est la nôtre et on la partage évidemment. Alors on dit un film d'histoire, un film daté. Bah oui, on en rêverait que ça soit un film daté, mais hélas, l'irruption des régimes autoritaires qu'on est en train de vivre en ce moment fait qu'il faut absolument voir Deux procureurs pour ce qu'il dit aussi sur notre monde actuel, et on pourra le faire dès le 24 septembre 2025, date de sa sortie en salle.
Le retour d'un Français en compétition, Dominique Moll, très attendu, oui. Après la nuit du 12, présente dossier 137. Dans la France des Gilets jaunes, un jeune homme blessé par un tir de LBD, Stéphanie, c'est Léa Drucker, enquêtrice à l'IGPN, la police des polices, cherche à établir le degré de responsabilité de la police. Passionnant, sobre, documenté, sensible et politique, nous avons rencontré Dominique Moll et sa grande actrice, Léa Drucker.
Bonjour Monsieur Cordier, je suis le commandant Bertrand de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, mon collègue le major Guérini. Nous enquêtons sur les circonstances qui ont mené à la blessure de Guillaume Girard samedi dernier. Sa mère nous a dit que vous étiez avec lui au moment des faits. Est-ce exact?
Ouais.
Nous souhaitons vous entendre en qualité de témoin.
Mais je sais même pas comment il va, j'ai aucune nouvelle.
Son pronostic vital n'est plus engagé, mais les médecins ne le jugent pas en état d'être auditionné.
Pas en état, ça veut dire quoi? Il va avoir des séquelles?
Je ne sais pas.
Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait.
Tu baisses d'un ton, là. Et tu parles correctement, s'il te plaît.
Et vous les avez retrouvés? Les flics, là, qui ont fait ça, vous les avez retrouvés?
Monsieur Cordier, c'est nous qui posons les questions.
Est-ce que vous allez me croire?
L'IGPN, la police des polices, génère en soi une vraie dramaturgie, en fait. C'est ça qui est fou. Enquêter contre son camp, c'est un argument très fort de cinéma, ça, déjà, à l'origine.
Oui, c'est bien ce qui m'a intéressé. Enfin, ouais. Je sentais qu'il y avait une promesse de fiction là-dedans. La police qui enquête sur la police, ça rend quand même curieux. Après, le défi, c'est qu'on n'en sait rien. Enfin, personne n'y a jamais mis les pieds. C'était assez opaque, etc. Et j'ai eu la chance assez inespérée, j'y croyais pas trop, grâce à la nuit du 12 d'ailleurs, hein, de pouvoir y mettre les pieds quelques jours et de voir les enquêteurs, les enquêtrices de l'IGPN au travail.
C'est un milieu très fermé en plus.
Ah oui, mais je pense que j'étais le premier civil à y mettre les pieds, hein, je pense, enfin, sauf preuve du contraire, donc c'était quand même assez exceptionnel. L'idée, c'est de, par rapport aux violences policières, puisque ouais. Le film parle aussi de ça, c'est pas d'être dans la dénonciation outrée qui fait que voilà, enfin, chacun qui a déjà choisi son camp va se trouver conforté ou non dans ses positions, mais d'examiner comment on peut en arriver aux violences policières. Enfin, qu'est-ce qui peut mener à ça? Quelle est la responsabilité du pouvoir, enfin du gouvernement? Et c'est ce qui est aussi intéressant dans l'attitude des enquêtrices et enquêteurs de l'IGPN par rapport aux affaires de maintien de l'ordre, parce qu'ils savent bien que c'est des policiers qu'on peut mettre dans des situations très difficile et un peu impossible, mais que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est eux qui seront pointés du doigt et pas les donneurs d'ordre.
Comment l'incarner cette femme? Je crois qu'il vous a fait rencontrer Dominique, des inspectrices de l'IGPN. Vous avez fait votre cuisine après, vous avez rencontré plusieurs femmes et vous leur avez posé plein de questions, Léa.
Oui, enfin j'ai surtout rencontré deux enquêtrices de l'IGPN, donc Dominique m'a présenté et avec qui j'ai pu avoir une très longue conversation. Au cours, évidemment, dans un premier temps, où j'ai posé des questions sur l'aspect technique de leur métier, sur le langage, je crois, sur... Enfin, ça, c'était déjà présent dans le scénario, mais c'est très déconcertant d'interroger quelqu'un de la police, quand on est comédienne pour un film. C'est une position qui est un peu particulière, et, mais qui a, elles étaient très sympathiques, et puis aussi intéressées par ce qu'on faisait. Donc, de là, j'ai commencé à poser des questions qui devenaient peut-être un peu plus intimes, non pas sur leur vie privée, mais sur l'aspect pourquoi on rentre dans ce métier, d'où vient la vocation, pourquoi on va à l'IGPN, est-ce que c'est un choix, pour arriver petit à petit à des questions qui sont plus sur « bon, moi je vais prendre en charge un personnage qui fait le même métier que vous, il faut que je comprenne émotionnellement ce que ça implique et comment on se comporte émotionnellement au bureau de l'IGPN quand vous menez des interrogatoires. Qu'est-ce que vous avez le droit de montrer, pas le droit de montrer? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez de l'empathie, trop d'empathie ou de l'agacement, tout ça. Moi, je tournais autour du pot pendant un petit moment, puis à un moment donné, c'est ça qui me permettait de trouver la clé. Il y a de l'humanité, évidemment, dans cette fonction. Et en même temps, c'est des personnages qui sont entre deux eaux, quoi. Et puis qui sont pas très... Ça aussi, c'était intéressant, c'était d'assumer cette fonction qui n'est pas très aimée, qui n'est ni aimée des citoyens, qui pensent que de toute manière, ils sont partisans pour la police, et ils sont pas forcément aimés par leurs collègues policiers non plus. Moi, je l'ai vu une fois, le film, et je trouve qu'on voit bien ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui est beau, moi, je trouve, c'est qu'il y a ce conflit majeur, extérieur, de cette crise des gilets jaunes, de cette fracture sociale et ce conflit entre la police et les gilets jaunes. Et à l'intérieur de cette femme, il y a un conflit intérieur qui, je crois, j'espère, est visible.
À l'arrivée, le constat est super sombre quand même sur notre société, non ?
Oui, c'est assez sombre, mais en même temps, je pense pas que ce soit un film fataliste, justement parce que il est pas que dans un constat amer et déprimé. Moi, je crois au fait que en faisant comprendre des choses, en expliquant les choses, enfin que ça puisse aussi faire bouger un peu les lignes, peut-être susciter des débats. Déjà, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un mot pour les victimes de la part des représentants politiques, parce qu'il y en a jamais eu. Enfin, de au moins dire, voilà, il vous est arrivé quelque chose qui n'aurait pas dû vous arriver. Rien que ça. Enfin, si le film pouvait servir à ça, ça serait déjà génial.
Vous avez l'air d'être ému en disant
oui,
ça.
Oui, mais ça, oui, parce que ça me rend dingue. Ça me rend dingue que les représentants politiques n'aient pas la capacité ou le courage ou l'empathie de dire ça. Qu'est-ce que ça leur arrache? Enfin, c'est quoi le problème, quoi? Et voilà. Donc oui, ça m'émeut parce que ça, je comprends pas.
Dossier 137 au cinéma le 19 novembre prochain. On se retrouve après Fontaine DC. It's amazing to be young. C'est bien d'être jeune. It's the we'll be right back.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Toujours en direct de Cannes.
Toujours.
Avec ce film, Laurence, The President's Cake, oui. À la quinzaine des cinéastes. Premier film de l'américano-irakien Hassan Hadi, dans l'Irak de Saddam Hussein. Lamia, une fillette de 9 ans tirée au sort, doit confectionner un gâteau pour célébrer l'anniversaire du président. Une course contre la montre dans un régime cinglé et arbitraire.
Oui, alors on aimerait évidemment que ça soit une fable, seulement les dictateurs sont toujours présents pour nous rappeler que la réalité est plus importante que la fiction. Ils sont dingues. Et celle-là, mais l'été aussi, pour demander quand même à chaque écolier presque de fabriquer un gâteau alors qu'il était en train d'affamer son peuple, avec l'aide évidemment des sanctions internationales. Mais tout ça donne un contexte incroyable, et on a par exemple une première scène où qui fait beaucoup penser au Petit Fugitif, le beau film américain des années 50, où cette petite fille va de façon improbable dans une fête foraine. Ce qui m'a troublé aussi, mais c'est troublé au bon sens du terme, c'est que le film a le même sujet que Amroun, le film de Fatih Akin, c'est-à-dire un enfant qui doit faire absolument un gâteau pour quelqu'un. Et bon, ce qui est un petit peu raté chez Fatih Akin, ou un petit peu trop pesant, est là absolument parfait. C'est-à-dire que c'est une fable aussi glaçante sur l'état de la société irakienne dans ces années 90.
Le mystérieux regard du flamant rose de Diego Céspedes, magnifique. Présenté justement un certain regard. Désert chilien, début des années 80, Lydia, 11 ans, et bien grandit au sein d'une famille queer flamboyante jusqu'à l'arrivée d'une mystérieuse maladie mortelle.
Oui, alors ça se déroule dans le sublime désert d'Atacama au Chili, avec comme lieu central un bar qui est une sorte de saloon, parce que ça a des aspects de western moderne, ce film, il faut le dire, avec cette famille recomposée et composée d'homosexuels, de trans, de travestis, avec à côté d'ailleurs des mineurs chiliens qui sont censés représenter l'ultra-virilité, mais rien n'est simple dans ce monde-là. Et au milieu, donc, trône cette, le regard de cette jeune fille, et aussi cette maladie qui fait bigrement songer à celle de mauvais sang de Léos Carax, le tout dans une atmosphère et un univers qui est tout à fait prenant. Ça s'appelle Le mystérieux regard du flamant rose. La date n'est pas encore prévue, mais il faudra aller le voir quand il sortira.
Pendant un an, la documentariste iranienne Sepideh Farsi a communiqué par Skype avec une jeune photoreporteur palestinienne à Gaza, Fatma Asma, qu'elle a appelée Fatem. Oui. Résultat, ce film, Put Your Soul on Your Hand and Walk, présenté ici à l'Acide, salute ses photos, ses rêves et surtout son sourire. Illumine ce film. Fatem est morte le 16 avril dernier, tuée avec toute sa famille par un missile israélien. Nous avons rencontré la réalisatrice.
The film has been selected for a big festival.
Le film a été sélectionné dans un grand festival.
Cannes. I don't know if you know Cannes. Do you know Cannes Film Festival?
À Cannes. Tu connais ce festival?
Cannes,
un grand festival.
Ah, yes,
ah oui, oui, yeah, je le connais.
It has been selected for Cannes.
Ça a été pris à Cannes.
Oh,
c'est tellement génial.
Yes.
Oui.
You wanna come?
Tu veux venir?
Of course.
Évidemment, je veux venir. Si je peux venir avec Moata, ce sera so parfait. Ah, oh, c'est si incroyable.
Yes,
oui, ça l'est.
You come for the festival.
Tu viendras pour le festival.
So, I really hope.
J'espère, yes, vraiment. Yes.
Vous avez rencontré un ange?
Ouais, un peu. Ouais, on va dire ça. Qui est un ange sur terre, ouais, c'est vrai.
Un ange sacrificiel?
Eh ben, c'était pas l'idée, hein. Jusqu'au dernier moment, je me disais, elle l'a échappé belle, on y arrive, elle va sortir, on sera là ensemble.
Première rencontre via FaceTime, j'imagine. Qu'est-ce qui vient en premier? C'est son sourire lumineux?
Oui, oui, c'est son sourire, évidemment. Enfin, ça frappe tellement. Puis après, son humour, sa fierté, son énergie, quoi, en général. Un mélange entre la légèreté et la gravité. Les deux en même temps.
Elle était consciente des risques qu'elle prenait?
J'ai pas cru au début. Je me disais, elle parle comme ça, sur un coup de tête, comme une jeune qui sait pas exactement. Mais en fait, plus tard, et maintenant surtout a posteriori, j'ai l'impression que oui, elle savait. C'est-à-dire que les mots qu'elle a laissés, ça et là, les petits bouts de testament qu'elle a confiés à certains journalistes, qu'elle a laissés sur son Facebook, sur son Insta, j'ai l'impression qu'elle avait quand même envisagé l'éventualité.
Vous ne pensiez pas que ça allait se terminer comme ça? Vous la pensiez comment, la fin de votre film?
La fin du film, je l'avais, je l'ai presque. Je ne l'ai pas changé. J'ai juste ajouté un tout petit bout d'image, en fait, de notre dernière conversation. Mais le film, je n'y ai pas... J'ai pas voulu le changer. Surtout pas, maintenant. Mais j'avais vraiment pas imaginé ça. Je pensais qu'elle sortirait. Je pensais que la guerre finirait. J'étais très optimiste, quand même. Bizarrement, naïvement. À un moment, je me suis dit... Elle a tenu tous ces mois dans les pires moments d'attaque. Elle s'en est sortie. Ça va aller, là. Ça va aller. Le film est pris. Mais pas que à cause du film aussi. Je me suis dit, bon, il va y avoir des accords. La guerre va s'arrêter. On va pouvoir se voir. J'y croyais vraiment.
I hope all of this ends.
J'espère que tout cela finira. Et...
See you in another place in this world.
J'espère te voir dans un autre endroit dans ce monde. Moi, Gaza, j'espère que tu viendras pour que je t'emmène chez moi et puis on va sortir ensemble et on marchera dans les rues de Gaza.
Ce sourire n'était pas à Cannes. Deuxième film français de cette compétition, Laurent.
Oui.
La petite dernière d'Afsia Herzi, adaptée du roman éponyme de Fatima. Fatima Das, l'histoire de Fatima, musulmane, pratiquante et lesbienne, entre la famille d'immigrés algériens, les étudiants parisiens, les fêtes lesbiennes et le déchirement de Fatima, sa difficulté à être elle-même.
Oui, alors pour ceux qui pourront en douter, Afsia Herzi est aussi une grande réalisatrice. Oui. Hein, en outre qu'elle est évidemment une grande, grande actrice, mais vraiment ce nouvel opus, ce troisième opus, prouve qu'elle a un vrai talent de cinéaste, un vrai regard, avec une filiation assumée avec Abdelatif Kechiche, oui, en Pygmalion, mais c'est une bonne référence. Elle sait absolument s'en détacher, tout en gardant par exemple cette capacité à filmer un repas de famille de façon extraordinaire, et une nouveauté chez elle, à filmer les corps, l'intime, la sensualité, la sexualité, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'art, tout comme elle sait filmer aussi la religion, sans complaisance et sans caricature. C'est un petit bijou.
Le très attendu Eddington du
cinéaste... Et ce soir, pardon, le 1er
oui,
octobre, on va être complet.
Le très attendu Eddington du cinéaste américain Ari Aster, en compétition Une petite ville du Nouveau-Mexique, l'affrontement entre le maire Pedro Pascal et le shérif Joaquin Phoenix, l'arrivée du Covid plus le meurtre de George Floyd vont réveiller tensions, racisme, complotisme et ultra-violence. Un film très politique sur l'Amérique 2020, on pense au cinéma des Cohen, mais sans l'humour. C'est éreintant et écœurant à la fois, ce film.
Oui, mais on ne sait pas où il veut aller Ari Aster. C'est ça quand même le problème. Alors, je sais bien qu'on peut être autre chose que binaire en politique, mais là, franchement, c'est une sorte de pudding avec une ultra-violence finale qui ne résout rien et qui pose encore plus de problèmes. C'est en salle le 16 juillet 2025. Vous irez vous faire votre propre avis.
En ouverture de la sélection Acide, ce road trip d'une famille en Sardaigne, La Ventura 2, et avec Sophie Le Tourneur et Philippe Catherine, le couple déjà présent dans Voyage en Italie. C'est drôle, chaotique, charmant et malgré tout très contrôlé afin d'arracher le réel pour le retenir, comme dit Philippe Catherine, que nous avons rencontré avec Sophie Le Tourneur.
Emma,
ah oui, tu arrêtes, bah tu arrêtes.
Je vais.
On va être très sévère là, parce que les vacances, ça va très mal se passer, d'accord? Hein? T'as pas pris d'eau là, de boisson là? C'est tout ce qui nous reste, mais c'est dégueulasse.
Oui, mais avec celle-là.
Maman, je veux. Papa, je veux.
Tu m'écoutes, je suis en train de t'expliquer un truc là. Donc là, tu vas rien avoir. Rien, tu vas avoir. Tu veux de l'eau? Tu n'auras pas de boisson. Tu n'auras pas de boisson. Tu n'auras pas
attends,
de glace.
La glace, tu veux pas qu'on dise que c'est plutôt à l'heure du goûter?
Moi, ça me paraît fondamental de dire oui à ce genre d'expérience. Mais c'est vraiment une expérience. Ouais. On est vraiment pas du tout dans le commun des tournages habituel, parce que vous tournez en Sardaigne peut-être, mais quand on tourne dans la rue, on n'arrête pas la circulation, on joue avec ouais, des figurants qui ne savent pas qu'ils le sont, mmh. Il arrive plein de choses, enfin, c'est comme on est un petit peu dans un tournage sauvage,
oui.
Et c'est vrai que moi je l'ai jamais vraiment expérimenté ça.
Non. C'est amusant, c'est fatigant.
Ah, c'est plus fatigant que les autres tournages.
Oui.
On va pas se le cacher.
Oui.
Ah oui, ça demande beaucoup d'énergie. D'autant plus que là, on n'était pas en couple, on était avec deux enfants, ouais, dont un plus jeune. Enfin, faut gérer, quoi, évidemment.
Oui.
Hein. Mais ça donnait vraiment le sel de ce tournage, tout ça, parce que ça n'arrive pas. On fait jamais ça. Hein. Ça se fait pas du tout de faire des tournages comme ça, figurez-vous.
Il n'y a pas de caravane, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de caravane.
Pas de maquilleur.
Ah voilà, il n'y a pas de maquillage.
Non.
Alors ça, c'est encore autre chose, parce que vous n'avez pas de HMC, vraiment. Ouais. Pas de maquillage.
Habillage, maquillage, coiffure, pardon.
Oui, bien sûr.
Mais j'en ai jamais fait, moi.
T'en as jamais fait ?
Non, sur aucun de mes films.
Mais du coup, ça amène quoi ? Plus de naturel, plus de spontanéité, de se dire qu'on est pas, on est dans un film, mais pas vraiment. Il y a des gens qu'on connaît pas autour. Mais
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sas.
C'est ça.
Hein, quand on vous rentre sur le plateau, vous êtes directement dans l'affaire. Alors que quand vous passez au maquillage, il y a une discussion avec des gens, il y a un sas, hein, où, enfin, vous voyez ce que je veux dire, avant d'entamer les débats. Et là, pas du tout, vous êtes directement dans l'ambiance. Je suis arrivé là, frais, dispo. Donc c'est vraiment des textes au cordeau, parce que ça a l'air très improvisé, mais pas du tout. Elle a fait déjà une maquette de son film, donc c'est vraiment, c'est, comme vous l'avez dit, une reconstitution, comme si on avait voulu arracher le réel pour le retenir, quoi. Hein. Donc, y a une responsabilité à participer à ça, bien sûr.
Ouais. C'est un vrai corps de cinéma, Philippe Catherine, non ? C'est une présence, un corps.
Ah oui, oui, ben là, c'est vrai que déjà dans Voyage en Italie, je le trouvais super. Enfin, de toute façon, si j'ai voulu travailler avec lui, c'est que je le trouve très inspirant. J'ai toujours adoré, j'ai toujours accroché, quoi. Philippe, il crée ça aussi. Enfin, je pense que les gens, je le vois hein, dans la rue, tout ça. Enfin, les gens se sentent proches de lui. Enfin, il y a quelque chose qui va chercher chez les gens quelque chose d'hyper beau, d'hyper poétique, mais chez tout le monde.
Vous n'avez pas l'air de composer.
Ah, de composer ?
Ouais.
Non, je composais, non. Je fais pas de la conjugaison.
Philippe Catherine dans l'Aventura. Enfin, cet incroyable film en compétition officielle, Sirat, du franco-espagnol Oliver Latché, un road trip mystique, décor à couper le souffle, techno entêtante, comme une transe. Son acteur principal, Sergi Lopez, nous a rejoint. On vous retrouve juste après cet extrait.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
Bonjour Sergi Lopez.
Bonjour.
Vous êtes à l'affiche de ce film dingue en compétition signé Oliver Latché, c'est du galicien. Sirat, ça s'appelle. Un père et son fils parviennent à une rêve perdue au cœur des montagnes du sud marocain. Ils cherchent Mar, fille et sœur disparues depuis plusieurs mois. Ils vont s'obstiner et suivre un groupe de rêveurs vers une dernière fête où ils espèrent la retrouver. C'est un type ordinaire, ce Louis, anonyme, qui va vivre une expérience. Est-ce qu'on peut parler, Sergi, d'expérience d'acteur un peu folle, où vous avez traversé d'énormes émotions ?
Bah oui, c'est un vrai voyage émotionnel, c'était exceptionnel, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un mystère. Hein. Pour moi encore, le fait de jouer, ça reste quelque chose de mystérieux, on essaye de trouver une certaine vérité au milieu des émotions de tout ça, alors qu'on sait que c'est la fiction, que je m'appelle pas Louis, je suis un comédien, mais on essaye d'oublier le comédien, on essaye que le personnage existe, et je sais pas encore comment on fait, je crois qu'on a besoin d'être hypnotisé, d'être envoûté, et Oliver, le réalisateur, il est très fort avec ça. Il est très fort en inspiration et il nous l'a jamais. Donc, si, c'est vrai que je me suis éclaté en fait. C'est marrant hein, parce que on a beaucoup joué sur la douleur, sur la tragédie, sur le choc, sur tout ça. Mais je l'ai fait d'un point de vue, enfin, d'acteur, de jeu. Et en fait, c'était une expérience très enrichissante pour moi.
D'autant que vous êtes avec des acteurs qui sont pas professionnels. Ouais, et ça, c'est un peu une vulnérabilité pour un acteur d'être avec des non-professionnels.
Oui, mais en même temps, c'est aussi, effectivement, c'est laisser de laisser apparaître cette vulnérabilité, de l'accepter. Moi, je crois que de la même façon que j'ai pu les aider parce que j'ai un peu d'expérience, ils savent pas. Eux, ils m'ont aussi inspiré parce que le but, non, mon but, ça a été de passer inaperçu, de ne pas se rendre compte qu'il y a un acteur et un non-acteur, mais justement de que sa naturalité, sa présence, son, tu vois, que ça se contagie et d'essayer d'y aller moi aussi. Donc c'était très inspirant de travailler avec des gens qui faisaient ça pour la première fois, quoi.
C'est un type qui va faire un voyage intérieur, qui va faire un chemin parsemé d'épreuves terribles et qui va s'éveiller à autre chose, en fait. C'est ça, c'est un parcours initiatique, ce film.
Oui, il y a aussi un parcours de vie, un parcours ouais. On se dit que, voilà, Oliver parlait de Sirat comme le pont qui lie l'enfer avec le paradis et qu'on doit traverser. Et voilà, et c'est énorme. Enfin, on est encore, je suis encore sous le choc, encore. J'ai vu hier le film dans la grande salle avec les sons spectaculaires. Ouais. Et j'ai tremble un peu encore à l'intérieur. Je suis en train de descendre.
Un film sur ce qu'il reste après avoir touché le fond.
Ouais. Qu'est-ce qui reste quand on a la perception émotionnelle très profonde qu'on a tout perdu.
C'était comment ce tournage? J'étais aussi fou que ce qu'on voit à l'image?
Oui, différent, mais même plus fou qu'à l'image.
C'est vrai?
Ouais, c'était énorme. C'était toute une équipe. Déjà un tournage avec toute une équipe d'adultes qui part dans le désert à tourner un film, c'est déjà une épopée. Mais là, en plus avec toute l'énergie des rêveurs, des travelers qui étaient là, qui n'avaient jamais joué et qui se jugent soi-même et qui ont des énergies et des présences, ça a été un spectacle. C'était un cirque ambulant très, très, très touchant. Très... On est de la famille maintenant.
Il y en a un qui a un t-shirt Freaks du film de Todd Browning. Ouais. C'est un peu des freaks pour les gens, ces gens-là.
Oui, dans le sens où c'est vrai que c'est des gens qui montrent leurs blessures. Des blessures qu'on a tous. On a tous des blessures d'enfance. On a tous des enfants blessés, on dit. Et eux, ils la montrent, ils l'acceptent, ils l'assument. Et voilà, ils sont comme ils sont. Et c'est vrai que du point de vue d'une société plus réglementée, plus serrée, ils sont vus comme des frics, comme des gens à part. Et en fait, oui, ils sont des personnes à part parce qu'ils ont décidé de vivre autrement.
Les rêveurs, on pourrait dire que c'est des néo-punks.
Ouais. Pourquoi pas? Si, c'est des gens. En fait, c'est très surprenant parce que moi, je partage ça avec mon personnage, avec Louise, d'être quelqu'un de simple, anodin, tu vois. Et qu'on regarde les rêveurs, les raves, comme un truc un peu superficiel, des gens qui se droguent, qui dansent, qui produisent pas, tu vois. Et en fait, c'est très impressionnant de connaître cette communauté, cette collective et voir la conscience sociale, la conscience écologique, la conscience politique. Qu'ils ont, tu vois, et que c'est un geste conscient, c'est pas juste des gens lâchés dans la nature, ils ont vraiment des... Et puis ils sont préparés, ils connaissent les plantes, les maladies, le soleil, l'eau et les moteurs diesel, tu vois, ils sont préparés pour être autonomes et c'est étonnant de découvrir un collectif si organisé que ça.
Et le film raconte un truc très beau, c'est la communion, en fait, entre tous ces êtres blessés.
Ouais. Oui, comme quoi, nous, moi et mon fils, mon personnage et son fils, ils arrivent dans la rue, ils voient les autres comme des extraterrestres. Mais en fait, les autres, ils les voient eux comme des extraterrestres. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après, quand on donne l'opportunité à l'autre de se montrer, d'exister, en fait, on se ressemble tous. Et en fait, on est tous dans le même voyage. Et en fait, c'est là où le mieux de l'être humain, la solidarité et la compassion apparaît, d'une façon naturelle.
Merci beaucoup Sergi Lopez à l'affiche de Sirat de l'hiver, Lacce en compétition ici à Cannes. Et s'il fallait parler à la première personne, c'est ce que je vais faire tout de suite, Sirat, et mon immense coup de cœur de ce début de festival, et pour vous Laurent, on pourrait parler de...
Mon immense déception en début de...
Non, mais
d'accord,
coup de cœur.
Non, le coup de cœur, ce serait plutôt le film de Sergei Lonitsa, de Procureur, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et puis le film d'Avia Herzi aussi.
On fait un petit rattrapage sur un dessin animé, Arco.
Oui, Arco, qui est une sorte de manga français de Hugo Bienvenu, quel nom. 1h22, parfaitement maîtrisé dans le dessin, mais aussi dans l'histoire, une sorte de conte de science-fiction dans le retour vers le passé, c'est magnifique.
Et sinon, un film qui s'intitule Le rire et le couteau.
Ah oui, oui, de Pedro Pinho, absolument, un film portugais incroyable. Alors là, une longue traversée de 3 heures dans l'ouest portugais, en Guinée-Bissau. C'est tout à fait étonnant, singulier, l'itinéraire d'un ingénieur qui va progressivement découvrir et le colonialisme et le néocolonialisme et la vraie vie, etc. C'est un long voyage très, très poétique, très beau.
C'est quand même dingue, ce festival de Cannes qui nous permet de passer de la police française, un désert avec des rêveurs, la petite dernière de Hafsa Herzi, l'Amérique des années 2020. Ce sont des super belles promesses de cinéastes que ce début de festival.
Fenêtre ouverte sur le monde.
Ouais, absolument. Et on n'a pas encore tout vu parce qu'on attend le Mendoza Filho,
on a plein d'appétits.
Le Tariq Saleh, le Julia Ducournau, le Jafar Panahi, le Mario Martone, Carla Simone, ouais, Joachim Trier, etc.
Plein.
Merci beaucoup à notre belle équipe, Stéphanie Texier et David Leprince à la réalisation, Louise Tempéro à la préparation, Thierry Dupin à la programmation musicale, et toutes les équipes de Radio France à Cannes, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct du 78e Festival de Cannes. Au revoir.
Salut.